Chapitre 8, les derniers jours de Pékin. Première partie, Pékin, mercredi 1er mai. Je suis rentrée hier de ma visite au tombeau des empereurs, après 3 journées et demie de voyage comme dans la brume, par vent jaune, sous un lourd soleil obscurci de poussière. Et me voici de nouveau dans le Pékin impérial, auprès de notre général en chef, dans ma même chambre du Palais du Nord. Le thermomètre hier marquait 40 degrés à l'ombre, aujourd'hui 8 degrés seulement, 32 degrés d'écart en 24 heures. Un vent glacé chasse des gouttes de pluie mêlées de quelques flocons blancs, et au-dessus du palais d'été, les proches montagnes sont toutes marbrées de neige. Il se trouve cependant des personnes en France pour se plaindre de la fragilité de nos printemps. Mon expédition terminée, je devais reprendre aussitôt la route de Takou et de l'escadre. Mais le général, qui donne demain une grande fête aux états-majors des armées alliées, a bien voulu m'y inviter et me retenir. Et il a fallu de nouveau télégraphier à l'amiral, lui demander au moins 3 jours de plus. Le soir, sur l'esplanade du palais de la Rotonde, je me promène en compagnie du colonel Marchand, par un crépuscule de mauvais temps, tourmenté, froid, assombri avant l'heure sous des nuages rapides que le vent déchire, et dans les éclaircies, on aperçoit là-bas sur les montagnes du palais d'été, toujours cette neige tristement blanche en avant des fonds obscurs. Autour de nous, il y a un grand désarroi de fêtes qui contraste avec le désarroi de batailles et de morts que j'avais connu ici même l'automne dernier. Des zouaves, des chasseurs d'Afrique s'agitent gaiement, promènent des échelles, des draperies, des brassées de feuillages et de fleurs. Autour de la belle pagode, toujours éclatante d'émail, de lacs et d'or, les vieux cèdres centenaires sont déguisés en arbres à fruits. Leurs branches presque sacrées supportent des milliers de ballons jaunes qui semblent de grosses oranges. Et des chaînettes vont de l'un à l'autre, soutenant des lanternes chinoises en guirlande. C'est lui, le colonel Marchand, qui a accepté d'être l'organisateur de tout. Et il me demande « Pensez-vous que ce sera bien ? Là, vraiment, pensez-vous que ça sortira un peu de la banalité courante ? C'est que, voyez-vous, je voudrais faire mieux que ce qu'ont déjà fait les autres. » Les autres, ce sont les Allemands, les Américains, tous ceux des Alliés qui ont déjà donné des fêtes avant les Français. Et depuis 5 ou 6 jours, il a déployé une activité fiévreuse, mon nouvel ami, pour réaliser son idée de faire quelque chose de jamais vu, travaillant jusqu'au milieu des nuits avec ces hommes auxquels il a su communiquer son ardeur, mettant à cette besogne de plaisir la même volonté passionnée qu'il mit jadis à conduire à travers l'Afrique sa petite armée de braves. De temps à autre, cependant, son sourire tout à coup témoigne qu'ici, il s'amuse et ne prendrait point au tragique la déroute possible si le vent et la neige venaient à bouleverser la féerie qu'il rêve. Non, mais c'est ennuyeux tout de même ce temps. Ce froid, que devenir, puisque ça doit se passer justement en plein air, sur ces terrasses de palais battues par tous les souffles du Nord. Et les illuminations, et les vélums tendus, et les femmes qui vont geler dans leurs robes du soir, car il y aura même des femmes ici, au cœur de la ville jaune. Or voici que tout à coup, une rafale vient briser une file de girandoles à pendeloques de perles, déjà suspendue aux branches des vénérables cèdres, et chavirer une rangée de ces pots de fleurs que l'on a déjà montés ici par centaines pour rendre la vie à ces vieux jardins dévastés. Jeudi 2 mai. Des émissaires ont été lancés aux 4 coins de Pékin, annonçant que la fête de ce soir était remise à samedi pour laisser passer la bourrasque. Et il m'a fallu demander encore par dépêche à l'amiral une prolongation de liberté. J'étais partie pour 3 jours et serais restée près d'un mois dehors. Je porte maintenant des chemises, des vestes empruntées de ci, de là, à des camarades de l'armée de terre. J'ai l'honneur de déjeuner ce matin chez notre voisin de Villejaune, le maréchal de Waldersee. Dans une partie de son palais que les flammes n'ont pas atteinte, une grande salle en marqueterie, en boiserie à jour. Le couvert est dressé là pour le maréchal et son état-major, tout ce monde correct, sanglé, irréprochablement militaire, au milieu de la fantaisie chinoise d'un tel cadre. C'est la première fois de ma vie que je viens m'asseoir à une table d'officiers allemands, et je n'avais pas prévu la soudaine angoisse d'arriver en invité au milieu d'eux. Ces souvenirs d'il y a plus de 30 ans, les aspects particuliers que prit pour moi l'année terrible. Oh, ce long hiver de 1870, passé à errer avec un mauvais petit bateau dans les coups de vent sur les côtes prussiennes. Mon poste de veille, presque enfant que j'étais alors, dans le froid de la hune, et la silhouette si souvent aperçue à l'horizon noir d'un certain König Wilhelm lancé à notre poursuite, devant lequel il fallait toujours fuir, tandis que ses obus derrière nous sautillaient parfois sur l'eau glacée. Le désespoir alors de sentir notre petit rôle si inutile et sacrifié au milieu de cette mer. On ne savait même rien que longtemps après. Les nouvelles nous arrivaient là-bas si rares, dans les sinistres plis cachetés qu'on ouvrait en tremblant. Et à chaque désastre, à chaque récit des cruautés allemandes, ces rages qui nous venaient au cœur, un peu enfantines encore dans l'excès de leur violence, et ces serments qu'on faisait entre soi de ne pas oublier. Tout cela, pêle-mêle, ou plutôt la synthèse rapide de tout cela, se réveille en moi, à la porte de cette salle du déjeuner, même avant que j'aie passé le seuil, rien qu'à la vue des casques à pointe accrochés aux abords, et j'ai envie de m'en aller. J'entre, et cela s'évanouit, cela sombre dans le lointain des années. Leur accueil, leur poignée de main et leur sourire de bon aloi m'ont presque rendu l'oubli en une seconde, l'oubli momentané tout au moins. Il semble d'ailleurs qu'il n'y ait pas, entre eux et nous, ces antipathies de race plus irréductibles que les rancunes aiguës d'une guerre. Pendant le déjeuner, leur palais chinois, habitué à entendre les gongs et les flûtes, résonne mystérieusement des phrases de Lohengrin ou de Laure du Rhin, jouées un peu au loin par leur musique militaire. Le maréchal aux cheveux blancs a bien voulu me placer près de lui. Et comme tous ceux des nôtres qui ont eu l'honneur de l'approcher, je subis le charme de son exquise distinction, de sa bienveillance et de sa bonté. Vendredi 3 mai. Autour de nous, l'immense Pékin, qui achève de se repeupler comme aux anciens jours, est très occupé de funérailles. Les Chinois, l'été dernier, s'entretuaient dans leur ville. Aujourd'hui, ils s'enterrent. Chaque famille a gardé ses cadavres à la maison durant des mois, comme c'est l'usage, dans d'épais cercueils de cèdre qui atténuaient un peu l'odeur des pourritures. On apportait tous les jours aux morts des repas et des cadeaux. On leur brûlait des cires rouges. On leur faisait des musiques. On leur jouait du gong et de la flûte, dans la continuelle crainte de ne pas leur rendre assez d'honneur, d'encourir leur vengeance et leur maléfice. C'est l'époque maintenant de les conduire à leur trou, avec des suites d'1 km de long, avec encore des flûtes et des gongs, d'innombrables lanternes et des emblèmes dorés qui se louent très cher. On se ruinera ensuite pour les monuments et les offrandes. On ne dormira plus, de peur de les voir revenir. Je ne sais qui a si bien défini la Chine, un pays où quelques centaines de millions de Chinois vivants sont dominés et terrorisés par quelques milliards de Chinois morts. Le tombeau, partout et sous toutes ses formes, on ne rencontre pas autre chose dans la plaine de Pékin. Quant à tous ces bocages de cèdres, de pins et de thuyas, ce ne sont que des parcs funéraires, murés de doubles ou de triples murs, chaque parc le plus souvent consacré à un seul mort, qui retranche ainsi aux vivants une place énorme. Un lama défunt, chez lequel je pénètre aujourd'hui, occupe pour son compte 2 ou 3 kilomètres carrés. Dans son parc, les vieux arbres à peine feuillus tamisent légèrement ce soleil chinois qui, après la neige d'hier, recommence d'être brûlant et dangereux. Au centre, il y a son mausolée de marbre, pyramide de petits personnages, amas de fines sculptures blanches qui vont s'effilant en fuseau vers le ciel et se terminent par une pointe d'or. Ça et là, sous les cèdres, des vieux temples croulants, voués jadis à la mémoire de ce saint homme, enferment dans leur obscurité des peuplades d'idoles dorées qui s'en vont en poussière. Dehors, le sol de cendre où l'on ne marche jamais est jonché des pommes résineuses tombées des arbres et des plumes noires des corbeaux qui vivent par centaines dans ce lieu de silence. L'avril, cependant, y a fait fleurir quelques tristes giroflées violettes, comme dans le bois impérial, et quantité de tout petits iris de même couleur. À l'horizon, au bout de la plaine grise, la muraille de Pékin, la muraille crénelée qui semble enfermer une ville morte, s'en va si loin qu'on ne la voit pas finir. Et tous les bois funéraires, dont la campagne est encombrée, ressemblent à celui-là, contiennent les mêmes vieux temples, les mêmes idoles et les mêmes corbeaux. Ces plaines du Pechili sont une immense nécropole où chaque vivant tremble d'offenser quelqu'un des innombrables morts. Pékin naturellement se rebâtit en même temps qu'il se repeuple, mais à la hâte, avec les petites briques noirâtres des décombres, et les rues nouvelles ne retrouveront sans doute jamais le luxe des façades d'autrefois en dentelles de bois doré. La grande artère de l'Est, à travers la ville tartare, est ce qui demeure le plus intact de l'ancien Pékin, et la vie redevient intense, fourmillante, presque terrible. Sur une longueur d'une lieue, l'avenue de 50 mètres de large, magnifique de proportion, mais défoncée, ravinée, coupée de trous sournois et de cloaques, est envahie par des milliers de tréteaux, de cabanes, de tentes dressées ou de simples parasols fichés en terre. Et ce sont les rôtisseurs de chiens, les bouilleurs de thé, les gens qui servent des boissons horribles ou des viandes effroyables, dans de toujours délicieuses porcelaines éclatantes de peinturlures. Ce sont les charlatans, les acupunctaristes, les guignols, les musiciens, les conteurs et les conteuses d'histoires. La foule, au milieu de tout cela, évolue à grand-peine, divisée en une infinité de courants divers, partant de petites boutiques ou de petits théâtres, comme se diviseraient les eaux d'un fleuve au milieu d'îlots, et c'est un remous de têtes humaines, incessant et tourmenté, noirci de crasse et de poussière. Des vociférations montent de toutes parts, rauques ou mordantes, d'un timbre inconnu à nos oreilles, accompagné de violons qui grincent sur des peaux de serpents, de bruits de gongs et de bruits de sonnettes. Les caravanes, cependant, les énormes chameaux de Mongolie qui tout l'hiver encombraient les rues de leurs défilés sans fin, ont disparu vers les solitudes du nord, avec leurs conducteurs au visage plat, fuyant le soleil qui sera bientôt torride. Mais ils sont remplacés, sur le milieu bossu de la chaussée réservée aux bêtes et aux attelages, par des files de petits chevaux, des files de petites voitures, et on entend partout claquer les fouets. Et au pied des maisons, durant des kilomètres, par terre, sur les immondices ou sur la boue, l'extravagante foire à la guenille commencée l'automne dernier s'étale encore, piétinée par les passants. Débris de tant d'incendies et de pillages que l'on ne finira jamais de vendre, des frocs magnifiquement brodés, mais qui ont été un peu sanglantes. Bouddha, magot, bijoux, perruques de mort, vases ébréchés ou précieux cassons de jade. Au-dessus de tant de choses saugrenues, au-dessus de tant de tapages et de tant de poussières, la plupart de ces maisons, en contraste avec la pouillerie des foules, sont étourdissantes de sculptures et d'éclats. Finement fouillées en plein bois et finement dorées depuis la base jusqu'en haut. Dans le cèdre épais des façades, d'infatigables artistes ont taillé, avec ces patiences et ces adresses chinoises qui nous confondent, des myriades de petits bonshommes ou de monstres ou d'oiseaux, parmi des fleurs ou sous des arbres dont on compterait les feuilles. Les dorures de tous ces minutieux sujets, atténuées par place, sont le plus souvent restées étincelantes grâce à ce climat presque sans pluie. Et en haut, sur les couronnements, sur les corniches festonnées, c'est toujours le domaine des chimènes d'or qui tirent la langue, qui ricanent, qui louchent, qui ont l'air prêtes à s'élancer vers le ciel ou à descendre pour déchirer les passants. L'été dernier, dans les grands incendies boxers, elles flambaient chaque jour par centaines ces étonnantes façades qui représentaient une somme incalculable de travail humain et qui faisait de Pékin une vieille chinoiserie tout en or, un si extraordinaire musée de bois sculpté que les hommes d'aujourd'hui n'auront plus jamais le temps d'en reconstituer un pareil. Samedi 4 mai. C'est ce soir, décidément, la fête donnée par notre général aux états-majors des Alliés. D'abord, en attendant la nuit, une fête entre Français. L'inauguration d'un boulevard dans notre quartier, dans notre secteur. Du pont de marbre à la porte jaune, un long boulevard dont la confection a été confiée au colonel Marchand et qui portera le nom de notre général. Pékin, depuis l'époque lointaine et pompeuse où fut tracé son réseau d'avenues pavées, n'avait jamais revu chose pareille. Une voie libre, unie, sans précipice ni ornière, où les voitures peuvent courir grand train entre deux rangs de jeunes arbres. Il y a foule pour assister à cette inauguration. Des deux côtés de la chaussée neuve, sablée de frais et encore vide, qui est d'un bout à l'autre barrée par des piquets et des cordes, des deux côtés il y a tous nos soldats, quelques soldats allemands aussi, car ils voisinent beaucoup avec les nôtres, et puis les Chinois, et les Chinoises d'alentour en robe de fête. Les bébés charmants et drôles, aux yeux de chat bien tirés vers les tempes, occupent le premier rang à toucher les cordes tendues. Quelques-uns même se font porter par nos hommes pour voir de plus haut, et un grand zouave se promène avec deux petites Chinoises de 3 ou 4 ans, une sur chaque épaule. Il y a du monde perché sur les toits. Plusieurs de nos malades, là-bas, sont debout sur les tuiles de notre hôpital et des chasseurs d'Afrique ont escaladé, pour avoir des places de choix, le clocher gothique de l'église qui domine tout, avec son large drapeau tricolore déployé dans l'air. Des pavillons français, il y en a sur toutes les portes des Chinois. Il y en a partout sur des perches, groupées en trophées avec des lanternes et des guirlandes. On dirait d'une sorte de 14 juillet, un peu exotique et étrange. Si c'était en France, la décoration serait banale à faire sourire. Ici, au cœur de Pékin, elle devient touchante et même grande, surtout à l'arrivée des musiques militaires, quand éclate notre Marseillaise. L'inauguration, cela consiste simplement en un temps de galop, une espèce de charge à fond de train exécutée sur le sable encore vierge par tous les officiers français, depuis la porte jaune jusqu'à l'autre extrémité de ce boulevard où notre général les attend, sur une estrade enguirlandée de verdure par les soldats, et leur offre en souriant du champagne. Après, on enlève les frêles barrières, la foule déborde gaiement. Les petits aux yeux de chat prennent leur course sur ce beau sol passé au rouleau et c'est fini. Quand nous serons repartis tous pour la France, quand Pékin sera entièrement rendu aux Chinois qui ont sur la voirie des idées subversives, cette avenue du général Voiron, qu'ils font pourtant mine d'apprécier, ne durera pas, je le crains, plus de 2 hivers.